Bonjour chers auditeurs et bienvenue en Pays de Carcassonne. Je vois que vous êtes tout bronzés, bien reposés et nous on est ravis de vous retrouver. Et pour commencer cette nouvelle saison, en plein mois de septembre, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Barthez qui est président du pays Corbière-Minervois, mais il est aussi président du pays Galles des Pays Vignerons, donc on vous expliquera ce que c'est. Et puis il est accompagné donc de Karine Diaz-Turquet qui est la technicienne du Galles des Pays Vignerons. Bonjour Gérard et Karine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je crois qu'il faut expliquer déjà aux auditeurs bien, ce qu'est le Galles des Pays Vignerons. Quel est l'objectif?
Alors le Galles des Pays Vignerons au cœur de l'Aude, c'est le groupe d'action locale qui a été constitué donc par trois pays. Le pays Corbière-Minervois, le pays Carcassonnais et l'agglo de Narbonne.
D'accord.
Voilà. Dans le cadre du projet européen Leader donc 2006-2013, que ce Galles a été constitué en 2008-2009.
D'accord, voilà. Et quels étaient donc les objectifs? C'était alors, à la demande du Conseil général de l'Europe de créer comme ça un groupe d'action locale regroupant trois pays en fait, puisqu'au départ je pense que le Grand Narbonne était encore en pays narbonnais.
Était un pays narbonnais avant que ce soit l'agglo qui prenne la compétence.
D'accord.
Voilà. Alors donc c'est une volonté, oui, du conseiller général et des trois territoires de constituer ce Galles, un Galles qui est destiné donc à la promotion et à la commercialisation des produits agricoles en circuit court. Il y a dans ce cadre-là donc trois objectifs. Le premier, c'est la commercialisation en circuit court. Le deuxième objectif, c'est de favoriser l'attractivité du territoire. Et le troisième objectif, c'est de coordonner et de professionnaliser les démarches collectives.
Voilà. Voilà, donc tout projet rentrant dans ces trois axes, donc cela permet, j'imagine, d'avoir des financements. C'est le but, en fait, de tout projet européen.
Bien entendu, donc les financements peuvent intervenir au niveau de l'Europe, peuvent intervenir au niveau du Conseil régional, au niveau du Conseil général et de l'État. Voilà. On peut obtenir aux alentours de 55% de subventions sur des projets.
Oui, donc c'est très intéressant.
Bien entendu.
Et donc là, on est pratiquement à la fin. Alors, je serais tenté de dire, il reste encore de l'argent.
Il reste aux alentours de 600 000 euros. Si je ne m'abuse, Karine peut-être le dira, les chiffres, je ne les ai pas tout à fait.
Alors, la technicienne, voilà, la technicienne suit ça de près. Alors, est-ce qu'il reste de l'argent?
Il reste des fonds européens à mobiliser. Donc, il reste effectivement 600 000 euros sur notre enveloppe initiale qui était de 2 millions d'euros. Donc ce sont la somme de fonds européens qu'il reste à mobiliser. Mais il ne faut pas oublier que pour pouvoir mobiliser cette somme de fonds européens, il faut en face mobiliser du fonds national. Donc comme le disait Gérard tout à l'heure, des fonds du Conseil général ou des fonds du Conseil régional ou des communautés de communes, enfin du fonds public national, sans quoi on ne peut pas aller...
Oui, vous pouvez pas
chercher la contrepartie,
voilà, la contrepartie
européenne.
Donc, ça veut dire que si on arrive à avoir tous ces financements, qu'est-ce qu'il reste à payer pour le porteur de projet?
Alors, ça dépend des fiches mesures.
Puisque en gros, ça donne une idée qui nous écoutent.
Chacun des objectifs est associé à une fiche mesure spécifique qu'il faut, pour lesquelles il faut remplir les conditions pour pouvoir prétendre aux subventions. Et on est toujours dans un rapport de 45%, 55% entre les fonds publics nationaux et les fonds européens, et ensuite entre 20 et 40% d'autofinancement du porteur de projet.
Donc c'est très intéressant. Alors je crois que pour les auditeurs, ce qui serait intéressant, c'est de citer peut-être des exemples, c'est ce qui parle le plus. Donc qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent et qui a bénéficié donc de ces financements européens, régionaux ou départementaux?
Alors si on prend par pays, on peut éventuellement dire que sur le pays Corbière-Minervois, donc il y a eu un projet qui a été soutenu dans le cadre de la cave coopérative Les Terroirs du Vertige. Ensuite, dans le cadre du le vin dans tous ses états, c'est l'Université de la Vigne et du Vin à Ferrals-et-Corbières, et c'est les bus, c'est Buvons on coup ensemble, Donc qui permettent sur le territoire de regrouper des intervenants en collaboration avec la Chambre d'agriculture et des propriétaires ou des viticulteurs privés pour faire des échanges sur tel ou tel problème, parce que bon, c'est plus intéressant certaines fois de se regrouper un peu sur différents points du territoire avec de petits groupes, parce que bon, certaines fois c'est plus facile de s'exprimer dans petits groupes qu'en grand groupe, et ça permet donc de créer une dynamique au niveau bon, de la viticulture avec ses bus. Hein. L'université de la vigne du vin, bon, ça a été voulu aussi pour permettre donc aux viticulteurs, aux vignerons de pouvoir avoir un moment dans l'année de rencontre avec les professionnels. Je crois que c'est une bonne chose que de mettre en collaboration pour des échanges fructueux entre donc, des professionnels de la viticulture et les viticulteurs et vignerons. Un exemple, voilà, après, bon.
Karine en a peut-être d'autres. Voilà, sur.
Exemple, Karine, oui.
Alors ensuite, on peut citer sur le Grand Narbonne la ferme des producteurs. Donc qui est une dynamique collective de producteurs locaux qui se sont associés pour vendre leurs produits eux-mêmes. Donc c'est situé en face de la CCI à Narbonne et ça marche très bien.
Donc c'est ouvert tout le temps, c'est ouvert au grand public pour venir donc faire ses courses, mais auprès de producteurs locaux.
Exactement. Et donc, on est bien là sur la priorité ciblée de promotion des circuits courts, vente directe. Voilà.
Et là, les fonds européens sont intervenus sur quel type de financement ? Sur la ferme des producteurs, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont rentrés dans la communication ? Est-ce qu'ils sont rentrés dans, dans l'achat de matériel dans...
C'est sur la mise en place de la boutique elle-même, les investissements qu'il fallait faire pour créer la boutique.
D'accord. Et donc là, ça s'adresse effectivement à des privés.
Oui, qui se sont regroupés en association. Donc c'était une forme associative. D'accord. Mais bon, à partir du moment où on rentre dans la priorité ciblée, on peut trouver une réponse, quel que soit son statut juridique, dans le dispositif.
Parce qu'il y a aussi des gens tout seuls qui ont fait une demande de financement. Est-ce qu'on retrouve des caves particulières, par exemple ?
Oui, bien sûr. Sur le Pays Carcassonnais, on retrouve, par exemple, le domaine Rosé-Paul, qui a pu faire financer l'aménagement, l'accessibilité de son accueil sur le caveau. Et voilà.
Et une aire de camping-car aussi,
oui,
hein,
oui,
je crois.
C'est oui, ça. Oui, tout à fait.
C'est vrai qu'on en manque et qu'il y a une grosse demande. Et puis, donc ça, c'était un privé. Et puis, il y a également, je crois, la Maison de la Truffe. Donc, ça a un peu aussi intéressé donc, des prestataires touristiques ou des gestionnaires de sites touristiques, puisqu'il y a eu la Maison de la Truffe.
Oui, tout ce qui permet de favoriser l'attractivité du territoire et donc de mieux promouvoir et vendre les produits locaux va trouver aussi également une réponse. Donc c'est effectivement tout ce qui est agrotourisme, œnotourisme et même des structures comme la Maison de la Truffe qui font la promotion de cette filière truffe où là on a financé des audioguides multilingues pour s'adresser à une clientèle européenne.
Oui, parce qu'il y a la truffe, mais il y a aussi tous les produits autour, donc souvent c'est un...
Et puis il y a aussi une dynamique locale autour d'une coopération européenne autour de la truffe. On a notamment mené un projet de coopération avec l'Espagne. Mmh. On espère que ça va se développer avec l'Italie, voilà.
D'accord, donc de grands projets. Gérard ?
Oui, parce que au-delà des trois objectifs cités, il ne faut pas en oublier un qui est assez important, c'est la coopération, comme l'a dit Karine, entre les territoires européens. Mmh. Et je crois que la Maison de la Truffe à Villeneuve en est un exemple, puisque bon, on peut avoir des projets entre les pays européens.
Et là, voilà. On peut aussi avoir du financement pour favoriser ces échanges ?
Bien entendu, oui.
D'accord. Oui, non, mais c'est toujours intéressant à savoir, et puis ça peut donner aussi d'autres idées dans d'autres types de production agricole. Donc ça se passe comment ? Alors il y a quelqu'un qui est intéressé, qui a un projet, donc il prend contact avec Karine, j'imagine.
Oui.
Voilà, donc vous avez des permanences dans chaque pays, sur Lézignan, Narbonne, Carcassonne.
Oui, le siège est basé à Lézignan-Corbière, à la Maison Gibert, mais je me déplace effectivement chaque vendredi sur Carcassonne et Narbonne. Donc le premier vendredi, les vendredis impairs sur Carcassonne et les vendredis pairs sur Narbonne.
D'accord, et puis on peut aussi vous joindre, j'imagine que vous avez un numéro de portable.
Oui, bien sûr, vous pouvez nous joindre au 06 33 20 39 15, et on a également un site internet sur lequel vous pouvez trouver pas mal de premières informations. Donc c'est www.galdespaysvignerons.gimdo.com.
On répète, peut-être ça sera intéressant pour les auditeurs. Avec le gymdo, c'est pas toujours facile. Allez, on recommence, on vous redit le site. Écoutez bien.
www.galdespaysvignerons, tout attaché, tout minuscule, tout au pluriel, .gymdo, J-I-M-D-O.com.
Voilà, c'est important, chers auditeurs, si vous avez un projet, eh bien écoutez, ce site est très complet, ça vous permettra d'avoir un petit récapitulatif. Gérard et Karine, on va se retrouver pour vos coups de cœur touristiques et personnels. Et puis en attendant, on va faire une petite pause musicale avec la très jolie voix de Diana Krall. À tout de suite.
Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out? Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see that's love? Can there be any doubt when there it is, when there it is, day in, day out, when there it is, day in, day out, shabba-dabba-dabba-dabba-dee-dee-dee, shabba-dabba-dabba-dee-dee.
Et bien maintenant que vous êtes bien détendu avec Diana Krall, on va pouvoir continuer en vous parlant de tourisme et on va vous donner des idées pour vos prochaines vacances parce que vous rentrez mais il faut aussi repartir et puis il reste encore des week-ends. Donc Gérard et Karine, vous allez nous parler de vos coups de cœur touristiques. Alors on va commencer, coup de cœur touristique dans le monde hormis la France. Donc Karine, honneur aux femmes, ton coup de cœur touristique.
Alors, ben, plus parce que je souhaiterais y retourner que pour vous donner des pistes réelles de visite, j'aimerais parler de la Lituanie, donc qui est un petit pays balte, où je suis allée faire mon stage de fin d'études il y a bien longtemps de ça.
Mais non,
juste après la décollectivisation. J'avais été sous le charme de ce pays, qui parle une des plus vieilles langues indo-européennes, qui a beaucoup évolué très rapidement, qui fait partie de notre belle Europe, et qui a su résister à la collectivisation soviétique et conserver un patrimoine culturel important. Vous y trouverez la mer Baltique libre de glace toute l'année.
Oui, c'est assez important.
Avec un littoral charmant, plein d'ambre.
Voilà. C'est la spécialité.
L'ambre, oui.
Et puis un patrimoine, j'imagine, très riche sur le plan monumental.
Alors, ben oui, il y a des gros monuments soviétiques qui ont un petit peu abîmé le vieux Vilnius. Mais malgré ça, on a quand même préservé la vieille ville pavée avec ses habitations, ses cours intérieures, ses artisanats, le bois. On travaille beaucoup le bois en Lituanie, ses remparts. Et tous ces vieux quartiers aussi russes qui ont été rénovés.
Et puis en plus, c'est pas très très loin.
Non, ben non.
Voilà, donc ça peut être une bonne occasion de passer un week-end à Vilnius. Et vous Gérard, coup de cœur touristique dans le monde ?
Mais moi, le coup de cœur touristique dans le monde, c'est surtout l'Amérique latine et la civilisation précolombienne Inca. C'est la Colombie, c'est l'Équateur, c'est le Pérou, c'est la Bolivie. Donc j'ai eu l'occasion de visiter pendant 3 ans, pendant 1 mois et demi, parce que bon, j'ai eu une formation littéraire hispanisante et que je suis très intéressé donc, par les paysages et l'histoire donc, de cette civilisation-là.
J'avoue très que riche.
Très riche, et bon, surtout quand on voyage, comme je l'ai fait avec un collègue, donc, au niveau du contact avec les autochtones, c'est-à-dire qu'on évite de partir avec des trains climatisés, des bus climatisés, des hôtels climatisés. On vit avec ces personnes-là, et je crois que c'est ce côté enrichissant qui permet de voir et d'apprécier ces habitants-là. Voilà, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur. Parce que, bon, à l'époque, quand on voyait des affiches, le tourisme sur l'Amérique du Sud, le Pérou, on voyait le Machu Picchu et tout, je me suis dit un jour, il faudra que tu ailles là-haut. Et bien entendu, je me suis retrouvé en haut du Machu Picchu. Je crois qu'après la naissance de mon fils, ça a été la plus grosse satisfaction de me retrouver sur ce site magnifique qu'est le Machu Picchu. Voilà.
Donc s'il y avait quelque chose, un pays à faire en priorité en Amérique du Sud, ça serait le Pérou ?
Ah, vous avez le Pérou, la Bolivie et la Colombie aussi, puisque bon, mais surtout le Pérou. Je crois que le Pérou est un pays magnifique et surtout le contact avec les Péruviens. Quoi. Je crois que c'est quelque chose. Et puis quand on pratique la langue,
c'est important dans la découverte d'un pays. Oui.
Voilà. Et quand on pratique la langue, c'est encore plus sympathique de pouvoir communiquer entre les individus.
Quoi. D'accord. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon. Karine.
Alors ben là aussi, peut-être quelque chose de très personnel. Donc c'est la ville de Verdun et tout ce qui est fait autour de l'hommage donné aux combattants de la Première Guerre mondiale. Bon, Verdun, parce que voilà, la moitié de ma famille en vient.
D'accord.
Je peux vous inviter à aller visiter la citadelle, les souterrains. Voilà, donc j'ai amené mes enfants voir où...
Votre famille y était à l'époque de la Première Guerre mondiale ?
Oui, mon grand-père était D'accord. boulanger dans la citadelle, pour les poilus.
D'accord. Voilà. Et il vous parlait de ce qui s'était passé à cette époque-là ?
Non.
Vous avez eu un récit ? Non ? Jamais ?
Non, pas beaucoup. Il a aussi fait le débarquement et ça abîme un homme.
Oui, j'imagine. Ouais. Donc ça doit être effectivement très émouvant de revenir. Alors moi, je suis aussi allée à Verdun. Et c'est vrai que c'est toujours, on en garde un souvenir. Moi, il y a très longtemps aussi que j'y suis allée, mais on garde vraiment un souvenir très ému, et je pense que c'est effectivement très important d'emmener ses enfants, parce qu'il faut voir tous ces trous d'obus, ces magnifiques forêts, mais où il y a qui est vraiment semé de trous d'obus extraordinaires. Et moi, il y a 20 ans, quand j'étais sur le fort de Douaumont, en se baissant, j'avais trouvé une balle. Alors qu'il y avait des milliers de gens qui passent dessus, il y a beaucoup de visiteurs. Mais ça a tellement été truffé de munitions que, sans chercher, on en trouve comme ça tellement. C'est très impressionnant et je pense que c'est effectivement important à voir.
Et je voudrais faire un hommage à ce magnifique spectacle Sans Lumière, qui s'appelle Des Flammes à la Lumière, et qui est ça se passe dans des carrières, et vous voyez une reconstitution de la bataille de Verdun, faite par des bénévoles, donc c'est plus de 500 bénévoles qui se mobilisent chaque année.
Ah oui, c'est important.
Pour faire ce magnifique son et lumière et qui se termine par un espoir de paix. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, bah donc, pensez à aller à Verdun, c'est intéressant. Et puis un peu plus léger, Gérard, un coup de cœur touristique.
Oui, alors c'est vrai que bon, la France est tellement riche au niveau patrimonial, architectural, environnemental et tout, c'est difficile. Mais moi je suis un amoureux de la nature et de l'authenticité. C'est vrai que bon, on ne parlait pas des Pyrénées parce qu'on les connaît, mais bon, moi j'aimerais bien, pour y être allé aussi, les Alpes. Voilà. Alors, c'est vrai que bon.
C'est vaste.
Mais bon. Moi, ce qui me plaît, c'est les petits villages où on peut se reposer tranquille, avec ce côté aussi de rencontre qu'on peut avoir avec les autochtones. Vraiment, j'aime bien, moi, le contact humain, le contact chaleureux, et puis la tranquillité de pouvoir aller sur des circuits de randonnée, faire du ski éventuellement. Mais bon, c'est ce côté-là, reposant, vraiment sympathique, qui me plaît plutôt que l'attrait de la grande ville. La grande ville, bon, on peut aller visiter, mais bon, pas pour y rester. J'aime bien la tranquillité et l'authenticité du terroir et des hommes qui constituent ces territoires. Donc je ne peux pas citer un village ou une ville plus importante l'une que l'autre dans les Alpes, mais bon voilà, c'est le lieu, c'est les Alpes.
Il faut partir hors des sentiers battus,
pour résumer,
et le plus près de la nature possible, voilà, et des gens aussi.
Voilà, tout à fait. C'est ce que je recherche surtout quand je pars en vacances. Voilà.
Coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude. Bon, on va continuer avec Gérard. On parlait des massifs.
Oui, ben moi, hormis l'Aude, donc c'est le plus près de chez nous, donc ce sont les Pyrénées-Orientales, que ce soit le Val-Espire, la Cerdagne ou le Cap-Cir. Et j'avoue que j'aime bien me retrouver de temps en temps à Formiguères aussi, parce que bon, c'est toujours pareil. Hein,
on retrouve ce côté nature sauvage. Voilà. Et Karine, coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
La Camargue gardoise.
Tiens, ne serait-elle pas aussi de Camargue ?
La Camargue gardoise, et puis peut-être parce que on a tendance à aller sur ce littoral pour se prélasser sur la plage, et qu'il n'y a pas que ça.
Voilà, il y a tout l'arrière-pays gardois qui est très
riche. Il y a tout l'arrière-pays, et puis il y a des zones protégées, et des guides qui peuvent vous accompagner et découvrir toute la biodiversité qu'il y a en Camargue, et c'est magnifique.
Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais. On continue avec Karine ou Gérard, peut-être.
Karine peut continuer. Hein.
Allez. Durban, les Corbières, c'est ce que vous m'aviez dit. Allez, Gérard, il s'y colle, il va aller.
Moi, bien entendu, je vais, comme ma collègue a dit, la Durban. Camargue, moi je vais dire les Corbières, parce que bon, je suis issu des Corbières, et puis bon, en tant que président des pays Corbières de Minervois, c'est vrai que j'adore cette contrée du département, parce que là aussi, bon, on a un patrimoine qui est vraiment très 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 riche. Je ne parlerai pas, bien entendu, des sites cathares, que sont Quéribus, Pelle-Pertuse, et au-delà, Puy-Lorenz, Château d'Aguilar, Château de Termes, Villeroge-Termenès. Moi, c'est ce paysage aussi, là, constitué de pierres, de garrigues, qui m'intéresse, et aussi ces habitants qui ont été forgés par ces colbières, parce que bon, le viticulteur, la terre que l'on a chez nous, c'est cette terre qui a formé les individus que nous sommes, et moi je suis très fier d'habiter dans les colbières. Voilà le coup de cœur en dehors du pays carcassonnais.
Et dans le pays carcassonnais, justement. Merci pour la transition, Gérard.
Alors moi, dans le pays carcassonnais, ce qui... J'aime un coin particulièrement, c'est Pradelles-Cabardès, parce que donc On trouve à Pradel le petit lac où on peut s'adonner à la pêche. Il y a des randonnées à faire. Il y a un parcours VTT aussi que j'ai fait, qui va jusqu'au Pic de Nord. Et voilà, donc là aussi, j'ai passé quelques semaines avec des amis à Pradel-le-Cabardet, reposant, agréable.
Dépaysant, voilà, parce que c'est vrai que quand on est là-bas, on a l'impression d'être... Voilà. Très loin en montagne, alors qu'on n'est qu'à quelques kilomètres de Carcassonne.
Tout à fait, puis bon, s'il fait chaud, bon, il y a le lac, je ne sais pas, mais à l'époque, on s'y baignait en tout
mais
cas.
Mais toujours, on s'y baigne toujours.
On peut s'y baigner, donc on peut se rafraîchir, on peut pêcher, et puis voilà.
Et puis on peut découvrir aussi les fameuses glacières, où avant, donc, on stockait la glace, et puis après, on l'envoyait pendant l'été sur les stations estivales. Alors, il y en a certaines qui sont très très bien restaurées, c'est très particulier à voir, et donc très typique de la montagne noire, donc... Pradel, il y a beaucoup de choses à faire.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces belles choses partagées tous ensemble. Vous voyez, chers auditeurs, ne soyez pas tristes, les vacances sont finies, mais il reste encore des week-ends, puis il y a plein d'autres vacances. Je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis au mois prochain.